Il y a quelques semaines, on avait vu ensemble le début du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Et l'auteur nous disait « Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, c'est-à-dire Jésus. Considérez-le, regardez-le, portez vos regards sur sa personne. » On avait vu alors la supériorité de Jésus par rapport à Moïse. Et on va reprendre notre texte où on l'avait laissé. On va lire donc Hébreux chapitre 3, verset 7 à chapitre 4, verset 13. Donc Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » On va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci. Merci de nous avoir donné cette parole qui est notre pain, qui est notre sécurité aussi. Par elle, tu nous instruis, tu nous reprends, tu nous exhortes, tu nous éduques. Père, que tu veuilles bénir ta parole. Seigneur, c'est elle qui est la vie, c'est cette parole divine inspirée. C'est elle qui nous communique des bénédictions, qui nous éclaire, qui nous ouvre les cieux, qui nous permet de comprendre les choses célestes, qui nous permet aussi de se les approprier et les vivre. Seigneur, donne vie à ta parole, qu'elle nous exhorte ce matin, qu'elle nous fasse du bien à chacun d'entre nous, s'il te plaît, ce matin. que tu sois glorifié, que tu sois adoré dans nos cœurs et que nous t'aimions davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à Israël qui a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Ils étaient malheureux, ils souffraient, ils gémissaient, ils soupiraient après une délivrance. Ils étaient enchaînés à leur travail, hein, chacun devant faire sa part de brique pour toutes les extravagances de Pharaon. Chacun portant sa charge qui lui arrachait le dos. Chacun espérant qu'il y ait une délivrance finale. Chacun se disant, mais à quand le repos? J'imagine, ils ne travaillent pas 35 heures par semaine. À quand le repos? Et la délivrance est venue. Dieu a envoyé Moïse, le libérateur du peuple, et par la puissance de Dieu, par des prodiges, par des miracles, par des jugements, Moïse a emmené Israël, la sortie de l'Égypte. Il est délivré de Pharaon. Dieu était en train de les conduire au repos auquel ils soupiraient, parce qu'ils en avaient envie de ce repos. Il leur accordait un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance, un pays luxuriant, un pays où il y a du soleil, où il y a de la pluie, où ils auraient des récoltes et des beaux fruits. Mais durant toute la route qui les menait au plus beau des pays, le peuple gémissait, le peuple murmurait, n'était pas content parce qu'il fallait traverser un désert. C'est normal, l'Égypte est entourée de déserts, donc la mer et les déserts, donc il fallait bien traverser un désert pour en sortir. Mais ils gémissaient. Ils n'étaient pas contents. Et une fois devant les portes du pays de Canaan, ils n'ont pas voulu entrer dans le pays. Ils ont prétexté, mais il y a des géants là-bas à combattre, ça va être difficile, on ne va pas y arriver. Ils voyaient bien qu'il y avait une bénédiction, mais ils refusaient d'entrer dans le pays promis. Dieu les avait sortis d'Égypte, il avait fait des miracles, des prodiges, ils ne croyaient pas encore en lui. Ils doutaient encore, ils ne faisaient pas confiance. Et ils ont endurci leur cœur. Ils sont devenus durs comme une pierre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu n'a pas permis qu'ils entrent dans le repos, mais ils ont fait demi-tour, et il les a fait tourner 40 ans dans le désert. Ils ont tourné, 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 jusqu'à ce que toute la génération des rebelles soit morte. Et après seulement, donc leurs enfants, eh bien, Dieu les a conduits de nouveau jusqu'aux portes du beau pays. Et là, c'est sous la conduite de Josué, si vous vous souvenez, qui se sont emparés du pays, sont entrés dans ce pays de Canaan, et puis finalement, ils ont trouvé le repos que désirait leur père. Mais leur père, parce que c'est de leur père que nous parle ce passage, leur père, eux, sont morts dans le désert. Ils sont morts dans la solitude. Morts sans avoir atteint la promesse. Et on voit dans ce passage, ça fait référence à tous ces Juifs qui se sont endurcis dans le désert, qui ont refusé la bénédiction de Dieu. Et le passage nous les prend comme un exemple, nous les présente devant nos yeux, à nous qui sommes chrétiens 2000 ans plus tard. Et Dieu nous dit par trois fois, il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il le répète, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et une dernière fois, il reprend, c'est David cette fois, le roi David, qui reprend ce passage, cette parole, et qui le redit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu nous le dit trois fois. Pourquoi il nous le dit à nous? Parce que le pays promis, Canaan, c'était une image d'un autre repos. D'ailleurs, David va reprendre cette parole. Donc, David était en Israël. Ça y est, ils étaient dans le pays promis. Et il reprend cette parole. Donc, en fait, il y a une image d'un autre repos. On lit Hébreux 4, versets 7 et 8. Et Dieu, Hébreux 4, 7 et 8. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Et donc, il y a un autre jour pour le peuple de Dieu, pour le repos de Dieu, pour entrer dans ce repos. Et cet autre jour, bah, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pour nous, chrétiens, qui lisons ces versets, et puis c'est pour quiconque aspire au repos de l'âme, quiconque veut trouver la paix du cœur, veut trouver le repos, et bien c'est maintenant. Dieu l'invite, il peut entrer dans son repos. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Il nous dit que jusqu'à présent, en fait, nous étions comme ces Juifs dans l'esclavage de l'Égypte. Nous étions esclaves du péché. Nous gémissions dans nos passions. Nous étions malheureux, prisonniers. Et on espérait une délivrance de nos péchés, une délivrance de tout ce que nous vivions. Et chose merveilleuse, la délivrance est venue. Elle est venue par Jésus-Christ. Finalement, Jésus, c'est notre Moïse qui les a sortis, hein, qui les a sortis de l'Égypte. Ben, Jésus nous sort de ce monde. Il est notre Moïse. Il nous conduit à pouvoir être libérés du péché et le suivre. Et on l'a fait. Alors j'espère que tous l'ont fait. Je ne sais pas si tous l'ont fait ici. J'espère que tous l'ont fait. Si on veut croire en lui, alors il délivre vraiment des péchés. Mais pour beaucoup ici, on l'a suivi, on a cru en lui, il nous a sauvés. Et nous sommes normalement maintenant dans le repos. Donc Dieu nous parle ici. Dieu nous a tous sauvés pour qu'on soit justement dans ce repos. Regardez verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et c'est merveilleux. Il y a un repos qui nous est réservé, réservé au peuple de Dieu. Il est pour nous, il nous appartient. C'est comme si Dieu nous dit, mais j'ai un bon pays pour toi, un pays luxuriant, un pays d'abondance, un pays où tu vas pouvoir vraiment te réjouir de tout ce que j'ai fait pour toi. Et on est peut-être fatigué de l'esclavage. On est peut-être fatigué de l'esclavage, fatigué des luttes contre le péché. Fatigué de la domination du mal, fatigué d'essayer de faire des choses par nos propres forces et de n'arriver à rien, en fait, finalement, fatigué de nous-mêmes, eh bien, c'est à nous que ça s'adresse. Il nous dit, il y a donc un repos de sabbat qui vous est réservé, réservé au peuple de Dieu. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, le sabbat, ben, c'était le septième jour. C'était donc le samedi, le dernier jour, hein, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc c'était le dernier jour, Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le septième jour. Et il leur donnait ce septième jour comme un moyen pour eux eh bien, de ne rien faire, de se reposer vraiment. Ils ne devaient pas travailler le septième jour, c'était un jour de détente, un jour où on cherchait la face de Dieu, un jour où il ne fallait plus rien faire. Mais derrière ce septième jour, jour du repos, eh bien, il y avait cette illustration d'une autre vérité. Comme le pays promis, le pays de Canaan, c'était une image du repos, eh bien, le Shabbat, le septième jour, c'était une image du repos. Et Dieu, quand on lit ce passage, Dieu ne dit pas que le repos du chrétien, c'est le Shabbat, c'est le septième jour. Il dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, quel est ce repos ? Quel est cet autre repos qui était semblable à ce Shabbat ? C'est le repos de la foi. Le repos de la foi. Verset 10, regardez, Dieu nous dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et donc, au septième jour, Dieu en a fini avec ses œuvres. Il s'est arrêté de faire la création, c'était terminé. Il n'agissait plus du tout. Il s'est entièrement reposé. Il ne faisait plus rien, excepté de regarder la création qui était achevée. Et le repos, ben c'est le repos. On ne fait rien. Quand on se repose, on ne fait rien. Et il est dit que celui qui entre dans le repos de Dieu, eh ben il se repose de ses œuvres. S'il se repose de ses œuvres, il ne fait plus d'œuvres. Il se repose. Il ne fait vraiment plus rien. Il n'agit plus, il ne fait plus rien du tout, il se repose vraiment. Est-ce que vous connaissez ce repos de la foi ? Regardez Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul dit « Si je vis, si je bouge, si je suis actif, si j'entreprends, si je travaille, si je prends des décisions, ce n'est plus moi qui le fais, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus moi qui fais les œuvres, c'est Christ qui fait les œuvres. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je me repose. Je me repose entièrement. Et c'est lui qui fait les œuvres. Et c'est ça le repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. C'est le repos de la foi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Comme Paul avait reçu le Saint-Esprit, eh bien, il gardait les yeux sur son Seigneur, et à ce moment-là, eh bien, Christ vivait en lui, et lui se reposait entièrement. Quand il y avait une décision à prendre, Seigneur, voilà, quelle direction il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chaque fois qu'il était devant une décision à prendre, des choses à faire, s'apprêter à faire quelque chose, il cherchait auprès du Seigneur. Et puis il se laissait conduire, et c'est Christ qui faisait les œuvres au travers de lui. Lui, il était entièrement crucifié avec Christ, en sorte qu'il ne vivait plus pour lui, il laissait Christ vivre en lui. Et il était dans le repos, un repos parfait. Et j'insiste sur ça, se reposer, c'est ne rien faire, ne plus faire ses propres œuvres. Quelqu'un a dit, l'inconverti, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur, il dirait, ce n'est pas Christ qui vit, c'est moi. Et c'est la réalité de notre monde. Hein. Vous regardez le monde, c'est pas Christ qui vit en eux. Hein. Ça c'est clair, c'est eux qui vivent. Ils l'ont pas reçu. Donc Jésus-Christ n'habite pas en eux, et c'est uniquement le moi qui vit. Et le moi, eh ben, c'est le péché. Le moi, c'est l'indépendance de Dieu. Et le moi, c'est le péché. Et puis une fois converti, le pécheur se repent, il accepte Jésus-Christ dans son cœur. Et à ses débuts un peu chancelants, le chrétien dit, c'est moi et Christ. Voilà, moi et Christ. Il y a les deux. Moi d'abord, et puis Christ qui vient combler mes déficits, qui vient m'aider. Christ est là en lui puisqu'il l'a accepté, mais le contrôle de toute sa vie n'est pas encore gagné. Alors, eh bien, le moi est encore souvent présent. Et puis, on avance dans la vie chrétienne, puis après, c'est Christ et moi. Parce que Christ prend de plus en plus de place. Et on le laisse bien prendre du terrain. Paul disait, ce n'est plus moi, c'est Christ. Et ça, c'est ce que nous visons tous, en fait. Hein. C'est d'aller de plus en plus vers cet exemple que Dieu nous a donné au travers de Paul. Ce n'est plus moi, c'est Christ. C'est Christ à chaque instant. On avance vers cela. C'est notre but, que ce soit Christ qui vive en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Si je suis mort, à ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui laisse Jésus-Christ vivre en lui, il en a fini avec ses œuvres. Il ne fait plus ses propres œuvres. Il n'est pas en train d'essayer de faire les choses lui-même. Non, il est dans le repos et il laisse Christ s'occuper de tout et faire les œuvres. Alors, c'est pas dire, ah ben alors dans ce cas, on tombe dans un état de passivité. On ne fait plus rien et puis voilà, et on attend que ça se passe. Hein. C'est pas ça. C'est pas non plus tomber dans un état de méditation contemplative, voilà, mystique, où on attend. Hein. Il y a eu... un moment, un groupe qui s'appelait les piétistes, qui étaient là, ils attendaient que Christ agisse, et puis finalement, ils ne faisaient pas grand-chose. C'est pas ça. Au contraire, le repos de la foi, eh bien, c'est un repos qui est actif. Il y a une vie active. Mais c'est Christ qui fait les œuvres au travers de nous. Et donc, il est libre d'agir parce qu'on le laisse agir au travers de nous. Et le but, c'est d'être actif, mais non plus avec nos propres forces, notre propre énergie, nos propres idées, mais avec l'inspiration de Christ, avec Christ qui agit au travers de nous. Et là, eh ben, c'est sans effort. Bien sûr, on est des êtres humains, on est fatigué, hein, on a une journée longue, on est fatigué à la fin de journée, mais quand Christ fait les choses, on n'est pas en train de s'épuiser à faire nos propres œuvres. Parce que ce qui fatigue dans la vie chrétienne, c'est ça en fait. Hein. C'est de travailler soi-même et de vouloir faire plein d'efforts, mais par ses propres forces. À la fin, on craque, on n'y arrive plus. Alors que quand on est dans le repos, on dit « Seigneur, tu t'occupes de tout. Hein. Demain est un autre jour. Hein. On ne s'occupe pas de demain, on s'occupe d'aujourd'hui. On s'occupe du maître qu'on doit faire devant soi, un pas à la fois. » Alors, eh bien, on est dans le repos. Et là, ça va beaucoup mieux. Et on est beaucoup moins fatigué. On gère beaucoup mieux. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Verset 11, donc on reprend Hébreux. Chapitre 4, verset 11, il dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et les Israélites, hein, eh ben, ils ont tardé. Ils n'ont pas voulu entrer. Hein. Ils savaient que le pays était devant eux, mais pour finir, non, ils ont préféré faire demi-tour. Et Dieu ne les avait pas libérés de l'Égypte pour les emmener à tourner pendant 40 ans dans le désert, mais c'était leur propre choix. Il les avait libérés pour être son peuple et justement pour faire sa volonté, pour lui obéir. Et ce qu'il demandait, c'était pas pénible. Il était avec eux. C'était prendre, bien sûr, possession d'un pays. Bien sûr, c'était un territoire qui était occupé par des nations qui étaient idolâtres, cananéennes, qui faisaient même des choses horribles. Mais Dieu était avec eux. Et il y avait le repos qui était là, qui leur était promis. Mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas fait confiance, ils ont désobéi. Et Dieu nous dit à nous, puisqu'il reprend ce passage et nous le dit, il nous dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et on apprend une chose importante. C'est que ne pas entrer dans le repos, c'est désobéir. Si on ne veut pas entrer dans le repos et laisser Jésus faire les œuvres, on désobéit. Alors peut-être on est en train de faire des choses, on se dit « Ah ben je sers le Seigneur !» Mais si on n'est pas dans son repos et ce n'est pas ses œuvres, on est en train de désobéir. Pourtant on est en train de faire des choses, on se dit « Mais quand même, moi je sers le Seigneur !» Mais ce n'est pas ses œuvres à lui et on désobéit. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il s'agit d'y mettre son cœur et dire « Seigneur, vraiment, je ne veux pas vivre. Je veux que ce soit toi qui vives au travers de moi. » Alors la question, c'est pourquoi attendre? Puisque c'est le repos que Dieu nous propose. Ce qu'il veut, c'est vivre sa plénitude au travers de nous. Empressons-nous donc, qu'on le laisse vivre en nous, plutôt que de continuer à agir par nous-mêmes. Alors peut-être on se demande, mais comment entrer dans le repos? D'abord, on l'a vu, il faut croire. Il faut croire que c'est une réalité. Il y a vraiment un repos de sabbat réservé pour nous, peuple de Dieu. Et donc, c'est Dieu l'a prévu pour nous, il faut lui faire confiance. Croire. Il veut prendre les commandes de notre vie et on n'aura plus à s'inquiéter pour telle ou telle chose parce qu'on s'en remet sans cesse à lui. Chaque nouvelle décision, on s'en remet à lui. Chaque nouvelle montagne à gravir, on s'en remet à lui. Et donc, on est dans le repos. Il faut croire, d'abord. Dieu s'occupera de tout. Deuxièmement, il faut en finir avec ses propres œuvres. Ça veut dire qu'il faut renoncer. Renoncer à agir par soi-même. Ça veut dire mourir à soi-même. C'est ça. Hein. Je ne veux plus vivre, donc je suis crucifié, dit Paul. Crucifié, c'est je ne vis plus. Je ne veux plus vivre. Plus vivre ma vie propre. Je veux le laisser vivre sa vie au travers de moi. Il est dit... Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, c'est la mort. Il faut mourir. Il faut accepter de renoncer. Ensuite, troisièmement, il faut fixer notre attention sur notre Josué. Jésus, c'est notre Josué, c'est la même racine hein, en hébreu, le même nom. Et Josué a tiré le peuple du désert et les a conduits dans le pays Canaan, il leur a donné la victoire. Et Jésus, c'est notre Josué. Et donc si on fixe nos yeux sur sa personne, on s'attache à sa personne, mais c'est lui qui nous conduit vers ce repos. Les regards sur Jésus qui suscite la foi, il nous est dit. Ensuite, quatrièmement, il faut persévérer. Le repos complet s'obtient pas en un jour. On aimerait bien que, hop, on passe de l'autre côté et c'est terminé. Vous savez, vous arrivez en Canaan et puis il n'y a personne. Et vous vous installez et puis voilà, il n'y a pas de combat. Mais ce n'est pas comme ça. Israël a passé le Jourdain en un jour, c'est vrai, ils sont arrivés de l'autre côté, mais ils ont mis un certain temps à avoir une vraie paix. Il y a eu plein de combats, plein de luttes, hein, avant finalement d'être délivrés et d'avoir la paix et de jouir du pays où coule le lait, le miel, luxuriant, abondant. À la fin du livre de Josué, on lit ça. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et vous savez, derrière ces ennemis, ben c'est l'image de nos péchés. Tous ces ennemis, c'était comme le péché. Nous, c'est pareil. Pour avoir le repos, eh ben, il faut triompher de nos ennemis. Et il y a une lutte, c'est vrai, il y a un combat. Et petit à petit, mais Dieu nous promet le repos. Il nous promet à la fin une vraie paix. Alors, il y a quatre choses. Croire, d'abord, c'est une réalité. Renoncer à soi, mourir, regarder à Jésus et persévérer. On recommence. Et on y croit. On lui fait confiance et il le fera. C'est sa volonté. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Alors, Dieu sait aujourd'hui qui est aujourd'hui dans le repos en Christ. Il sait qui n'y est pas aujourd'hui dans le repos en Christ. Il sait aussi qui est en chemin, à désir, mais voilà, il lutte, il le sait. Et au travers de cette épître, eh bien, il nous donne un avertissement et puis il nous exhorte à avancer, à le désirer, à ne pas désobéir. Quand les Israélites se sont mis à suivre Moïse dans le désert, il y avait un pas de foi. Hein? Allez, on y va. On le suit, on traverse la mer. Il y avait un pas de foi. Lorsqu'ils sont entrés en Canaan, il y avait des géants hein, devant eux. Il y avait un pas de foi de nouveau. La foi. Et finalement, ils se sont installés en Canaan. Et là, ils ont joui de l'abondance de ce pays. Dieu leur a enfin donné la liberté de pouvoir avoir une maison, pouvoir cultiver sa terre, son jardin, pouvoir avoir des enfants, de prospérer. Et de la même manière, Dieu nous invite aujourd'hui à croire en lui, à lui faire confiance. Au départ, c'est comme les Israélites, on ne voit pas forcément ce que Dieu a pour nous, on ne voit pas toute l'étendue de ce que Dieu a pour nous. Et peut-être qu'il y a certains aspects qui nous font peur. Peut-être on se dit, mais est-ce que c'est bien vrai tout ce qu'il est en train de raconter là? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Dieu peut nous délivrer, il veut nous délivrer de nous-mêmes, de nos péchés. Certains se disent parfois, je vois pas comment une vie pourrait être mieux sans le péché. Parce qu'on aime le péché. La vie sans le péché est bien mieux. Il y a une vraie délivrance et c'est vraiment beaucoup mieux. Dieu nous demande de lui faire confiance. Un pays où coule le lait et le miel, c'est pas un pays où on manque de tout et on est malheureux et on pleure tous les jours. C'est pas ça. C'est un pays où on se réjouit dans le Seigneur. Hein. On se réjouit, non pas parce que bien, notre compte en banque va exploser, hein, mais parce qu'on a une vie qui est nourrissante, qui est vivante, hein, parce qu'on le connaît, on a une relation avec Dieu. Voilà, c'est ça le bonheur, c'est avoir une relation avec Dieu. Alors il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Regardez Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et Dieu nous place devant un choix. Sa parole, c'est comme une épée qui est tranchante. Dieu sait exactement qui nous sommes. Il sait exactement où nous en sommes. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, alors nous savons aussi quand nous entendons la voix de Dieu. Nous le savons. Quand Dieu nous parle par les Écritures, on le sait, on entend. On le sait très bien au fond de nous-mêmes. Parce qu'il est capable de mettre le doigt là où personne ne peut mettre le doigt. Il touche là où ça fait mal. Et on le sait quand ça arrive. Hein. C'est une vérité. Nulle créature n'est cachée devant lui. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Tout de notre vie. Vous connaissez Jean-Paul Sartre ? Il y a un épisode de sa vie qui l'a marqué. Donc c'est pendant son enfance, donc il était petit, il a brûlé le tapis de ses parents. Brûlé un tapis, et ensuite, alors qu'il essayait de cacher sa bêtise, son méfait, il a senti comme le regard de Dieu se poser sur lui. C'est lui qui écrit. Hein. Il s'est précipité dans la salle de bain, rien à faire. Le regard de Dieu était encore sur lui. Il était mal, il avait l'impression que Dieu ne quittait plus des yeux. Il disait quelque chose comme « Ne me regarde pas, ne me regarde pas !» Et on ne peut pas se cacher de Dieu. C'est impossible. On pourrait aller de l'autre côté de l'océan, ça ne changerait rien. On ne peut pas se cacher de Dieu, même de l'autre côté de l'univers. Il sait tout de nous, il nous voit, il nous connaît. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est nu et découvert. Toute votre vie est nue et découverte. Imaginez que toute votre vie, là, maintenant, elle est affichée sur le mur. Tout. Ça veut dire les choses visibles et les choses invisibles. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'ombre, tout ce que vous faites tout seul, tout ce que vous avez fait à une autre période de votre vie. Ça ferait peur, hein ? Ça ferait peur que tout soit affiché. Mais devant Dieu, tout est nu et découvert. Dieu voit tout. Il connaît tout de vous. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, et je ne sais pas si vous vous êtes réconcilié avec lui. Mais vous savez, nos fautes, le sang de Jésus les purifie, les efface. Quel bonheur de se dire, oh mon Dieu, mon passé, tu ne le ressortiras plus. Parce que je te l'ai confessé, parce qu'il est lavé par ton sang, parce que tu as prié pour moi. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est ça, hein, un jour nous serons face à Dieu. Soit tout sera nu et découvert, soit vous serez blotti, caché aux pieds de Jésus, et son sang aura purifié votre vie. Il n'y a que ces deux alternatives, il n'y en a pas d'autres. Ce qui détermine notre destinée, c'est notre réaction face à la parole de Dieu, face à la voix de Dieu. Qu'est-ce que l'on fait quand on entend la voix de Dieu ? Quand elle nous touche, quand il nous parle. Dieu nous invite à croire, il nous invite à nous repentir, à le suivre sincèrement. Mais on est libre, on fait ce qu'on veut, et le choix que l'on fait, ça détermine ensuite notre vie et notre éternité. Vous savez, Jean-Paul Sartre, après l'histoire du tapis, vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait le choix de blasphémer Dieu. Il l'a blasphémé pour le rejeter. Il ne voulait pas entendre sa voix. Il n'a pas choisi de croire et de se repentir. Alors il a grandi, il est devenu un homme, et il est tombé dans la noirceur et les ténèbres de son propre cœur. Hein, vous savez, il était après le chef de file de l'existentialisme, c'est-à-dire l'homme au centre de l'existence. Dieu n'est pas, hein, mais c'est l'homme qui... Voilà, c'est lui l'important, c'est lui qui est vraiment au centre. Dieu n'est pas. Sartre dit alors... que suite à tout ça, Dieu l'a laissé tranquille. Ben oui, Dieu n'est jamais plus revenu après. Autrement dit, sa conscience ne l'a plus du tout reprise. Il a refusé, Dieu se retire. Et là, on plonge dans les ténèbres. Et là, c'est fini. Si vous n'acceptez pas la lumière qui vous éclaire aujourd'hui, vous tomberez dans les ténèbres et vous deviendrez pire que ce que vous êtes. Vous savez, Jean-Paul Sartre, hein, je crois que c'est un des athées qui a le plus écrit sur Dieu. C'est ça qui est aussi stupéfiant. C'est que sans cesse, alors qu'il niait son existence, il n'a pas arrêté d'écrire sur lui. Il est tourmenté, hein, tourmenté et aveugle. Un jour, nous devrons rendre compte devant celui qui nous voit. Soit nous continuons à nous épuiser, à vivre notre vie dans nos petits péchés, dans nos désobéissances, dans nos ténèbres, travaillant, mais pour du néant, amassant, mais pour les autres, et finalement pensant jouir de certains plaisirs qui sont vains et nous laissent vides. Soit on continue comme ça, jusqu'à la fin, soit on s'arrête, on fait demi-tour. On tombe au pied de la croix, je viens à la croix, je me mets à genoux et je dis: Seigneur Jésus, je crois en toi, pardonne-moi, ouvre mes yeux, éclaire mon âme, donne-moi plus de lumière, sauve-moi, change ma vie. J'aimerais vous inviter à prier ce matin. Je sais que de temps en temps, nous faisons ça. De temps en temps, nous prions comme cela et nous invitons. Qu'aujourd'hui, ce soit le jour de votre salut. Qu'aujourd'hui, vous puissiez dire: oui, j'ai entendu sa voix, je vais répondre. C'est ce qui détermine votre éternité. On va s'incliner dans la prière. Moi.